Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider?
J'aimerais vendre mes actions.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. La mise en œuvre de ces mesures permettra de placer la France en première ligne en matière de lutte contre le financement du terrorisme. C'est ce que l'on peut lire sur le site du gouvernement français à la page du projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. Mais ce projet, qui a été adopté à l'Assemblée nationale puis au Sénat le 5 avril dernier, implique une surveillance beaucoup plus grande concernant les individus qu'en ce qui concerne les transactions financières. Les prérogatives d'investigation données aux procureurs et aux juges d'instruction en font de véritables agents de renseignement. L'accent est donc mis sur la surveillance policière et la répression judiciaire du terrorisme, et les actions coup de poing menées dans le cadre de l'état d'urgence, telles que les perquisitions de nuit, y bénéficient d'une sanction légale permanente. La prolongation de l'état d'urgence, le 22 avril dernier, paraît s'inscrire dans la continuité symbolique du projet de loi de M. Urvoas et dans la volonté du gouvernement de faire de cet état d'exception un mode de gestion durable de la menace terroriste. La diminution des garanties de procédure pénale qui en découle se mue en une sorte d'état de fait. Pourrait-on mettre fin à cet état d'urgence et lutter contre le terrorisme par d'autres moyens? La réponse dans une chronique, puis avec mes invités du jour, à savoir Pierre Tartakovsky de la Ligue des droits de l'homme et Laurent Jacobelli du parti Debout la France. Attention au démarrage de la chronique et en vous souhaitant une bonne écoute sur Spoutnik France.
Truc de dingue. Un truc de dingue.
Il y a des morts.
Mais carrément, regarde tout ça, le carnage. À l'intérieur, il y en a partout.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. J'ai également convoqué le Conseil des ministres. Il va se tenir dans quelques minutes. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite, et il y aura également des perquisitions qui pourront être décidées dans toute l'île de France.
La question de la lutte contre le terrorisme porte évidemment en elle la question de l'état d'urgence. Peut-on mettre fin aujourd'hui à l'état d'urgence? Faut-il mettre fin à l'état d'urgence? Ou faut-il, au contraire, multiplier les législations d'exception avec, bien entendu, le risque de les entériner et le risque de faire de l'exception la nouvelle norme? Alors, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un double problème. Il y a eu, évidemment, le problème à chaud. Le fait que, dans cette nuit tragique de novembre, où les attentats ont eu lieu à Saint-Denis et à Paris, où il y a eu ces tirs sur des populations civiles qui étaient à la terrasse des cafés, il fallait faire quelque chose et il fallait nécessairement agir. Mais, normalement, cette action, et l'état d'urgence avec lui, devait avoir pour logique de permettre à la situation normale, de reprendre ses droits. En fait, il faut le savoir, l'état d'urgence a pour fonction de permettre le retour à une situation normale. Or, à quoi assiste-t-on aujourd'hui, et pas seulement qu'en France? C'est un problème qui va se poser en Belgique, mais qui se pose déjà en Espagne, qui se pose en Allemagne. Eh bien, c'est à une inflation des mesures législatives contre le terrorisme. Alors bien sûr, il y a des mesures qui peuvent être justifiées. Il y a des mesures en particulier sur le contrôle des moyens de financement qui sont bien entendu nécessaires. Mais il va falloir se poser, et de manière extrêmement sérieuse, extrêmement précise, la question de l'intégration de ces mesures dans le cadre normal. Et de ce point de vue-là, rappelons-nous un petit peu ce qui s'était passé lors de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été un choc politique, a été un choc militaire, a été un choc social d'une ampleur tout à fait considérable. Pourtant, la République, la Troisième République, a continué de fonctionner. Les débats ont continué d'avoir lieu au Parlement. La liberté de la presse, bien sûr limitée en ce qui concerne les comptes rendus des opérations militaires, cette liberté de la presse, elle s'est maintenue. Et de ce point de vue-là, il n'est pas sans intérêt de regarder ou de relire le discours qu'avait prononcé Georges Clemenceau quand il avait pris la direction du gouvernement. Alors de ce discours qui est connu, qui est resté dans l'histoire, on ne retient en réalité que la fin. Cette fameuse phrase où Clemenceau dit « Oui, je fais la guerre, à l'intérieur je fais la guerre, aux affaires étrangères je fais la guerre ». Mais il y a un texte très intéressant. Et quand on le lit, on voit que ce texte, c'est en fait une défense des procédures normales, démocratiques, dans une situation exceptionnelle. Et donc il faut aujourd'hui se poser la question de savoir, après tout, si nous avons bien réussi à faire se maintenir des procédures démocratiques lors d'un choc d'une durée et d'une ampleur comme la Première Guerre mondiale, pourquoi n'y réussirait-on pas face au terrorisme? Et si l'on accepte l'idée que, malheureusement, la situation dans laquelle la France se trouve, où la France peut être victime de nouveaux attentats, va durer plusieurs années, oui, il faut se faire à cette idée-là, et donc, bien sûr, nous allons vivre dans une situation qui sera une situation exceptionnelle, mais cette exception ne doit pas limiter un certain nombre de règles. Alors, on pense évidemment à l'attitude de la presse, on pense à la liberté de presse, mais on pense aussi à la liberté des débats au Parlement. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Le moment est venu, maintenant, pour moi, de laisser la parole à nos invités. Pierre Tartakovsky, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bienvenue dans notre studio. Laurent Jacobelli, bonjour.
Bonjour Jacques Sapir.
Vous êtes secrétaire général adjoint du parti Debout la France. Bienvenue à vous aussi. Alors, le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui dans l'émission, c'est la lutte du gouvernement français contre le terrorisme qui a franchi un nouveau cap au mois d'avril avec l'adoption de la loi Urvoas de lutte contre le terrorisme et la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois supplémentaires. Peut-on mettre fin à l'état d'urgence et à l'inflation législative en matière de lutte contre le terrorisme? C'est une question qu'il est important, en tant que citoyen, de se poser, car quoi que l'on pense de nos libertés et de notre vie privée, elles sont effectivement réduites par cet état d'exception. La première question porte, bien entendu, sur l'état d'urgence. L'état d'urgence dure déjà depuis pratiquement 8 mois. Ce n'est pas une première dans l'histoire de la Ve République, certes, et les auditrices et les auditeurs, en tous les cas, les plus âgés, se souviennent peut-être du putsch d'Alger d'avril 1961. La situation est-elle d'une gravité comparable? Pierre Tartakovsky.
L'ordre existait avant l'état d'urgence. Et il peut y avoir un ordre social et sécuritaire en dehors de l'état d'urgence. La police n'a pas attendu l'état d'urgence pour faire respecter l'ordre dans ce pays. Donc, il y a donc là une très très grande confusion. Que la police fasse son rôle pour sécuriser l'ordre public, les manifestations, les manifestants qui ne sont pas violents, et qu'elle fasse en sorte que les violences soient réduites et créer les conditions d'une poursuite et d'une sanction, me semble procéder non pas d'un état d'urgence, mais d'un état de grande normalité démocratique. On n'a pas besoin de l'état d'urgence pour ça. Qui, dans l'espace politique français ou européen, proposerait la promulgation d'un état d'urgence contre les banques qui travaillent main dans la main avec les paradis fiscaux et autres places offshore? Personne.
Pourtant, ça s'impose.
Personne.
Et pourtant,
le désordre public porté par ces pratiques est tout à fait énorme. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le principe de proportionnalité, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Or, en ce moment, l'état d'urgence, justement d'ailleurs parce qu'il contribue largement à mettre une police sur les genoux, police qui a été très très maltraitée par le gouvernement précédent, on ne le dira jamais suffisamment, nous sommes d'accord là-dessus, justement parce que cela fatigue les forces de l'ordre parce que ça crée de l'obscurité et du trouble sur les objectifs, l'état d'urgence est en train de devenir contre-productif. Et il est d'autant plus contre-productif qu'il crée des illusions sur les vrais moyens. Car s'il est vrai, et je vous suis là-dessus, que ce n'est pas uniquement par le sécuritaire qu'on vient à bout du terrorisme, il faudrait quand même un jour avoir un bilan critique et constructif sur les moyens dont la République se dote pour combattre réellement le terrorisme. Combien de parquets antiterroristes? Combien de mesures pour la coordination des polices antiterroristes et des réseaux? Vous savez qu'il y en a, il y a 7 agences qui travaillent ensemble et qu'il y a 2 agences qui sont chargées de les coordonner et que personne ne sait qui est chargé de coordonner les deux coordinateurs. On est dans une situation absolument folle, d'autant plus folle que notre pays a l'expérience. Quand il a fallu combattre les terroristes de l'OAS, c'est par une réorganisation des services de l'État qu'on y est finalement parvenu, et en s'adressant au peuple et en expliquant qu'il s'agissait de défendre la République. Mais les deux ont été faits. Aujourd'hui, on ne fait ni l'un ni l'autre. On manie la peur, on surfe dessus, et c'est extrêmement dangereux parce que, bien évidemment, si on est convaincu que c'est comme ça qu'on combat le terrorisme, alors vous avez raison. Les manifestations sociales sont luxueuses. Les manifestations démocratiques sont aussi luxueuses. Les manifestations de foot doivent être sécurisées parce que celles-là ne posent pas de problème social et politique. Mais on n'est plus tout à fait dans une démocratie parlementaire.
Faire une perquisition de nuit chez un individu dont on soupçonne qu'il pourrait se donner à une action terroriste, consulter ses fichiers informatiques, me paraît être une chose normale dans la situation actuelle. Et en cela, je trouve que l'état d'urgence et que les propositions de Monsieur Urvoas vont dans le bon sens. En revanche, je disais que c'était nécessaire, mais malheureusement, pas suffisant. Tant qu'on pourra entrer et sortir en France, sans aucun contrôle aux frontières, on pourra y faire entrer des armes, on pourra revenir du djihad à peu près librement. Car on nous a promis un rétablissement des contrôles aux frontières, il suffit d'y aller. Je ne sais pas si vous avez tenté l'expérience, mais en Allemagne, en Belgique ou au Luxembourg, vous entrez et vous sortez exactement comme vous voulez. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas isolé les 250 djihadistes qui reviennent de Syrie, on n'arrivera à rien. Tant que la France continuera à ne pas faire respecter les peines de prison aux délinquants, on n'y arrivera pas, car le lien a été établi entre petite délinquance, grande délinquance et terrorisme. On le voit bien, malheureusement, dans ceux qui ont lâchement attaqué notre pays. Moi, j'ai envie de dire que l'état d'urgence, aujourd'hui, il y a plutôt urgence à rétablir l'État, c'est-à-dire un État respecté. Vous parliez tout à l'heure d'ordre. Pour moi, l'ordre et la sécurité sont la première des libertés pour les citoyens. Et qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que l'État n'est plus respecté. La parole de l'État n'inspire plus ni respect ni crainte. Et ce que vous appelez, monsieur, des mouvements sociaux et que moi j'appelle plutôt du chaos, voire de la chienlit, quand on voit l'état des rues actuellement et comment ils osent s'en prendre aux forces de l'ordre, je pense que tout cela participe de la même entreprise, qui est que nous avons un État qui a abandonné depuis des années les questions de la sécurité, de la surveillance du territoire, et qui se retrouve aujourd'hui très dépourvu face à la gravité de la situation, qui bricole des mesures dans l'urgence, qui ajoute des lois à des lois existantes, qui surencombre l'appareil législatif, mais pour quelle efficacité au final ?
Je crois qu'il faut serrer les problèmes, parce que je le dis sans aucune intention polémique. Il y a tellement de contre-vérités dans ce que j'entends que c'est très très compliqué pour moi. Essayons de faire simple. D'abord, évidemment, ce n'est pas l'état d'urgence qui permet d'écouter un délinquant, de fouiller son ordinateur ou de faire une perquisition de nuit. Cela se faisait parfaitement avant. Nous sommes dans un pays où la police...
Il fallait des autorisations dont on n'a plus besoin.
Nous sommes dans un pays où la police a toujours su travailler, elle s'est toujours bien débrouillée de ce point de vue, ce qui caractérise l'état d'urgence dans sa nature, parce que je crois qu'il faut s'attacher à l'essentiel, c'est qu'il restreint le rôle du juge judiciaire par rapport à l'administratif, et qu'on glisse de plus en plus vers une situation où la police, mais pas la police en tant que policier du coin de la rue qui est dans une mission de service public, les forces policières, l'exécutif policier est de plus en plus à la fois l'exécuteur et celui qui juge de la bonne exécution de lui-même. C'est-à-dire qu'il est son propre juge, ce qui dans une démocratie n'est jamais bon signe, qu'il s'agisse de la justice, du nucléaire ou de la vérification des médicaments qu'on met sur le marché de la santé. Voilà, il faut des contre-pouvoirs. La justice est un contre-pouvoir de la police. On est en train de la réduire à très peu de choses et les magistrats s'en émeuvent. Pas seulement les magistrats de gauche, loin s'en faut, s'en émeuvent à juste titre. C'est ça l'état d'urgence. Est-ce qu'on veut continuer à aller dans ce sens-là? Le reste, franchement, c'est du détail. Après, le discours à tendance délirante qui consiste à dire que les manifestations sont toutes violentes, que l'État n'a plus d'autorité, que bon, tout ça s'écroule. Il suffit de lire les statistiques de gens qui sont condamnés à la prison, la dureté des peines, la longueur de plus en plus longue des condamnations, pour s'apercevoir qu'on est au contraire dans un État qui est, comment dirais-je, de plus en plus sécuritaire et
social.
Ah ben si, Dieu merci, je l'ai encore, état d'urgence ou pas. Je vous remercie en tout cas de cette saillie, elle éclaire votre propos. Moi je pense qu'il faut raison garder. Dans une démocratie, il y a du conflit. Ou alors on n'est pas dans une démocratie. Et il faut que l'État ait l'autorité de gérer ces conflits. Il est vrai qu'en ce moment, la chose politique est extrêmement dégradée. Je ne sais pas si ça veut dire que l'État n'a plus d'autorité. Il est vrai que les Français s'interrogent sur l'avenir, sur la façon qu'ils vont avoir de le gérer ensemble, de le conduire ensemble. Ce sont de grands défis. Je pense que certains essayent d'y répondre en restant debout toutes les nuits. Ça, c'est leur problème. D'autres travaillent autrement, le jour, la nuit. Je pense que moi, j'ai beaucoup de respect pour les hommes politiques, pour les députés. C'est des gens qui travaillent énormément. Voilà. Il faut respecter tout ça et il faut surtout se garder de tout mettre dans un sac dit « chienlit » parce que là, la tentation de l'autoritarisme et du sécuritarisme, moi je pense que la première des libertés, c'est la sûreté. C'est-à-dire la capacité qu'a chaque citoyen de rentrer chez lui et de savoir qu'il pourra dormir tranquille dans son lit sans que l'État vienne le réveiller au milieu de la nuit. Ça, c'est la sécurité. Ni des voyous, mais...
Parlez-en aux gens qui habitent autour de la place de la République.
Mais qui... j'habite à trois jets de pierre de la place de la République. Je nous souhaite sincèrement de ne jamais connaître de voyoucratie plus toxique que celle qui se rassemble place de la République. On est dans une manifestation qu'on peut juger avec beaucoup de sévérité, qu'on peut regarder de haut ou qu'on peut trouver intéressante. Mais de là à la qualifier de voyoucratie, c'est comment dirais-je, c'est déjà mettre un pied en dehors de la raison raisonnée, quoi. Voilà, c'est pas raisonnable. Et sincèrement, je le dis en toute amitié, hein, c'est pas respectueux pour des gens qui sont en recherche et qui sont loin de pratiquer la violence. Si c'était le cas, ça se saurait. Pour moi, l'intérêt de notre rencontre, c'est qu'elle montre parfaitement les dangers qu'il peut y avoir à construire l'urgence comme paradigme politique et l'état d'urgence comme paradigme de gestion de la situation politique.
Alors, c'est intéressant parce que ceci, en fait, renvoie au fondement même de l'état d'urgence, de ce qu'on appelle l'état d'exception. Vous savez, l'un comme l'autre, nous connaissons l'histoire, que dans la République romaine, le Sénat pouvait voter les pouvoirs de dictature à un homme. Ça a été fait, plusieurs reprises. Et il s'agissait, pour cet homme, de faire face à une crise particulière, de restaurer les conditions normales d'exercice du pouvoir. D'ailleurs, c'était pour cela que cette délégation de pouvoir était bornée dans le temps.
Et dans l'espace. Rubicon.
Non. C'est pas la question du Rubicon. Elle était bornée dans le temps. Surtout, car de ce point de vue-là, le Rubicon ne jouait plus ce rôle de limite qu'il avait en temps normal. Alors, nous avons un exemple classique, c'est après la défaite du lac Trasimène face à Hannibal, le Sénat romain fait de Fabius, qui prendra le nom de Comptator, le temporisateur, un dictateur pour une période d'environ 7 mois. Et au bout de ces 7 mois, Fabius remet ses pouvoirs entre les mains du Sénat. Donc ça, c'est d'une certaine manière le modèle, je dirais, de l'état d'urgence, de l'état d'exception. Et puis nous avons le contre-modèle. À peu près 80 ans après, Sylla, notre général, se fait nommer dictateur à vie. Et là, on voit très bien comment on est sorti, d'une certaine manière, de ce modèle du dictateur qui, je le rappelle, est une institution de la démocratie. C'est une institution de la République romaine, mais là on est sorti et on peut considérer que Sylla agit en tyran et non pas en dictateur.
Vous venez, grâce à l'appel à l'histoire, de dire ce que j'ai, le message que j'essayais de faire passer tout à l'heure, c'est-à-dire que cet état d'urgence aujourd'hui est là pour pallier, c'est un pansement, un état qui depuis des décennies, et ça a commencé bien avant même Monsieur Sarkozy, ne s'est pas donné les moyens de surveiller les territoires, de préparer sa police et de prévenir ce qui allait arriver. Et donc, évidemment, par dépit et par urgence, voire impréparation dans ce sens-là, il a recours à cet état d'urgence. Je souscris, et évidemment, par définition, cet état d'urgence n'a pas vocation à durer. C'est clair. Il va falloir très vite revenir à une situation normale, mais une situation organisée. C'est-à-dire où les services de renseignement, où l'organisation police-gendarmerie, où tout cela sera mis en place pour prévenir et non pas simplement courir après les événements et essayer de réparer des situations malheureusement irréparables. Donc là-dessus, je souscris à votre analyse.
Pierre Tartakovsky, un dernier mot.
Moi, je pense, comment dire, je suis toujours sidéré par les gens qui commencent leur discours en disant que les problèmes sont mondiaux et qui pensent que les solutions consistent à s'enfermer dans un territoire. On a dans les dernières décennies, et on a encore aujourd'hui, l'exemple sous les yeux de pays qui essayent désespérément de construire leur sécurité, qu'il s'agisse de sécurité culturelle ou de sécurité tout court, en s'enfermant derrière des murs ou derrière des barbelés. Et l'actualité nous apprend que, évidemment, c'est toujours un échec. C'est un échec par rapport à l'adversaire, c'est un échec par rapport à sa propre identité.
Clausewitz disait déjà que la guerre, c'était la poursuite de la politique par d'autres moyens. On peut dire que d'une certaine manière, l'usage de la violence est toujours une forme de poursuite de la politique par d'autres moyens. Je crois que c'est bien sur ce mot que nous conclurons ce débat. Effectivement, il faut continuer à penser politique, il faut continuer à faire de la politique. Et c'est par la politique, c'est-à-dire, il faut quand même le préciser pour nos auditeurs, la distinction entre amis et ennemis, si vous voulez, c'est ça le fond du politique, c'est par cela que l'on arrivera à, d'une certaine manière, combattre le terrorisme et en même temps préserver nos libertés. Messieurs, je vous remercie.
Merci. C'est nous.
Merci à vous.
Au Mexique, une récente réforme constitutionnelle, facilitant la déclaration par le président de la République de l'état d'exception, passe très mal. Le projet n'a pas été un échec, à l'instar de la réforme de constitutionnalisation de l'état d'urgence qui était voulue par le gouvernement français, mais la dénonciation des organisations des droits de l'homme est aujourd'hui unanime. Et pour cause, durant le mandat du président précédent, M. Felipe Calderón, plusieurs régions au nord du pays et à la frontière avec les États-Unis ont été tout simplement soustraites à la loi civile pour y appliquer la loi militaire ainsi que les méthodes militaires de lutte contre les cartels de trafiquants de drogue. Une véritable guerre contre les cartels qui, selon la Fédération internationale des droits humains, a été livrée avant tout contre la population civile. Une véritable guerre contre les cartels qui, selon la Fédération internationale des droits humains, a été livrée avant tout contre la population civile qui a subi la torture systématique et un grand nombre de disparitions forcées et d'exécutions. Le cas, évidemment, est extrême. Mais il doit nous faire réfléchir, nous Français, sur les dérives que peut comporter l'état d'exception qui, au Mexique, n'a fait qu'empirer une situation déjà insupportable au regard des exactions des cartels. Adrián Ramírez López est président de la Ligue mexicaine des droits de l'homme et nous l'écoutons tout de suite.
L'application de la loi fédérale contre la criminalité organisée et l'introduction d'un régime pénal d'exception par l'administration précédente du président Felipe Calderón a entraîné la pire crise des droits de l'homme de toute l'histoire du Mexique, voire la pire de toute l'histoire de l'Amérique latine, si l'on en croit de nombreux observateurs. Cela veut dire encore pire que le bilan humain des dictatures militaires argentines et chiliennes, des guerres civiles guatémaltéco-colombiennes. La situation est très grave. Plus de 200 000 morts, plus d'un demi-million de déplacés, près de 60 000 disparus, des milliers de personnes torturées et des millions d'innocents qui vivent dans la peur. Notre pays vit une période des plus sombres et nous tenons l'État pour responsable. L'État, son appareil de loi d'exception et la guerre irresponsable qu'il a livrée au cartel en donnant à la police et aux forces armées toute latitude pour mettre le pays en état de siège.
Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir Et nous concluons à présent la première partie de notre émission consacrée aux nouveaux moyens de lutte contre le terrorisme. La France a subi deux attentats en 2015, auxquels le gouvernement a répondu par la déclaration de l'état d'urgence et l'adoption de deux lois, la loi Urvoas du 5 avril 2016 et la loi Renseignement qui avait été votée le 5 juillet 2015. L'inflation législative en matière de lutte contre le terrorisme, cependant, ne date pas d'hier. 15 autres lois antiterroristes se sont empilées depuis 1986, contribuant à l'illisibilité du droit pénal et rognant toujours plus sur les libertés publiques. Le moment n'est-il pas venu de se contenter du droit pénal en l'état et d'imaginer d'autres moyens de lutte contre le terrorisme? C'est la question à laquelle nous avons essayé de répondre aujourd'hui avec mes invités. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain, chères auditrices et chers auditeurs, pour la suite de cette émission, à laquelle l'ancien haut fonctionnaire et spécialiste des questions stratégiques, Pierre Conessa, a accepté de participer. Il y défendra le principe d'une politique antiterroriste axée sur l'impératif de contre-radicalisation. Je remercie Clément Détry à la rédaction, Mourad Azri au montage et à l'habillage, et Marc-Laurent Turpin à la réalisation. À très bientôt sur Spoutnik France.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.